Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Casimir, directeur du développement de TC Group Solutions, de Pierre Vinicky et Sandrine Huette pour l'Arbre de Confiance, de Carole Leyer pour Scrip Conseil et de Gilles Bellaloum pour la plateforme Comol. Alors, Stéphane Casimir, quels sont, on va parler avec vous de la performance d'un magasin, quelles sont les 5 étapes du parcours client?
Tout à fait. Donc, juste pour remettre dans le contexte, en fait, par le passé, très souvent, les enseignes faisaient une analyse de leur point de vente physique juste sur le revenu qu'ils pouvaient générer de ces points de vente. Maintenant, on s'aperçoit que avec le complément de ce qu'on appelle l'e-commerce, ils se doivent d'être un peu plus précis dans l'analyse qu'ils font des performances de leurs points de vente. Donc, nous les aidons, en fait, à analyser les comportements clients et visiteurs au niveau de leur point de vente. Donc, on va équiper leur magasin d'un certain nombre de senseurs qui vont nous permettre de remonter des KPI qui ont un intérêt certain. Donc, au niveau de la vitrine, on va installer un senseur pour analyser le trafic piéton devant le magasin. Ensuite, on va installer un senseur à l'entrée du magasin pour pouvoir analyser combien de personnes rentrent dans le magasin. Donc derrière, ça va nous donner un taux d'attractivité qu'on va analyser ces deux chiffres. Donc derrière, un magasin peut ensuite jouer sur ce taux d'attractivité, sur la vitrine, en fait, pour faire un peu varier ce taux d'attractivité. Donc c'est un premier facteur. On va également croiser les données de caisse avec les données qu'on va remonter. Derrière, ça va nous donner un taux de conversion sur tous ceux qui sont rentrés dans mon magasin, combien ont acheté. Et derrière, ça va permettre à un retailer, comme on dit, une enseigne, de pouvoir derrière faire une analyse des performances commerciales de son point de vente. On va pouvoir également analyser le temps moyen passer dans le magasin par un visiteur. Et l'autre élément, on va pouvoir également déterminer les répétitions des visites. C'est-à-dire si les visiteurs dans mon magasin viennent de façon hebdomadaire, journalière. Si aujourd'hui j'ai eu 100 visiteurs dans mon magasin, est-ce que 20 ou 30% de ces visiteurs sont des gens qui sont déjà venus dans mon magasin?
Si c'est des touristes, en fait, ou si ce sont des clients qui habitent, par exemple, le quartier ou...
Alors, c'est pas tellement par rapport... On va faire cette analyse, en fait. Alors, on va faire cette analyse qu'on a fait valider par la CNIL et qui respecte les données personnelles. On fait cette analyse grâce au MAC adresse, qui est un peu la plaque d'immatriculation des téléphones. Mais on va anonymiser ces plaques pour ne pas pouvoir remonter à l'individu. Mais grâce à cette analyse, on va pouvoir savoir si, par exemple, le téléphone est déjà venu sur ce point de vente.
Stéphane Casimir, vous êtes directeur du développement d'un groupe espagnol. Vous avez fait une étude sur toute l'Europe, sur les grandes villes en Europe et bien sûr la France et Paris, et puis d'autres villes de Paris. Donc, pour vous, un parcours client, c'est quoi ?
Pour nous, un parcours client, c'est déjà un parcours visiteur. C'est-à-dire, avant qu'il soit client, il est visiteur. Il n'est pas forcément visiteur de mon magasin, il est visiteur de ma rue, ou si je suis en centre commercial, de mon couloir. Donc, on part de ce principe et on se dit déjà comment l'attirer vers mon point de vente. Donc, on part de cet élément. Ensuite, une fois qu'il a passé la porte, il y a également comment je fais pour convertir ce visiteur en acheteur.
C'est-à-dire qu'en fait, vous analysez le comportement, finalement, de ce visiteur qui devient peut-être un consommateur.
Tout à fait, c'est exactement ce que nous
faisons. Comment on fait pour analyser et pourquoi c'est important d'analyser le comportement du consommateur ?
Je pense que les enseignes ont constaté, avec l'arrivée du e-commerce, où il est très facile d'analyser les comportements des acheteurs sur le net, puisqu'on laisse à chaque fois une trace, à chaque fois qu'on visite un site, à chaque fois qu'on achète, on laisse une trace, ils ont votre nom, votre prénom, combien de temps vous êtes resté sur la page. Donc je pense que les enseignes se sont rendues compte que sur l'établissement, sur le point de vente physique, il était important également de pouvoir faire cette analyse pour derrière essayer de vendre plus et peut-être mieux également à leurs consommateurs.
Est-ce que les marques avec qui vous avez collaboré écoutent suivent exactement le parcours que veut leur conseiller?
Alors, en général, on est plus sur la retransmission de données. Et derrière, c'est eux qui font leur analyse en fonction des données qu'on leur transmet. En général, on travaille avec des enseignes qui ont des fois deux ou trois magasins, et ça peut être des enseignes un peu plus grosses qui ont 10 000 points de vente dans le monde. Et derrière, en fait, ils font cette analyse, on les guide, on leur explique comment faire l'analyse, comparer les performances de leur magasin. Mais derrière, c'est eux qui font cette analyse et qui vont vers une stratégie s'ils doivent changer la disposition de la vitrine, s'ils doivent changer la disposition à l'intérieur du magasin, les performances de leur équipe commerciale sur le point de vente, etc., etc.
Quelles sont les tendances de la performance d'un magasin en 2019?
En 2019, les magasins se doivent d'être plus compétitifs, je vais dire, par rapport à des fois la compétition qu'on va retrouver chez les marketplaces comme Amazon, mais également par rapport à la compétition, leur propre compétition, je dirais, sur le e-commerce. Donc derrière, les points de vente se doivent d'arriver avec un élément différent des années précédentes, où aller dans un magasin, on doit arriver sur une partie fun, on doit arriver sur une partie amusement, une expérience.
Qu'est-ce qu'on appelle une partie amusement pour vous?
Donc on constate que de plus en plus dans les magasins, il y a la technologie qui arrive pour aider l'humain à mieux vendre. Dans des magasins, notamment aux États-Unis, on va retrouver des miroirs devant lesquels vous pouvez venir et sans essayer le vêtement, juste en cliquant sur ce miroir, sur le produit que vous avez choisi, automatiquement vous aurez cette robe ou ce jean par exemple qui viendra par superposition sur vous pour
donc, sans essayer, vous voulez dire on va pouvoir voir si une robe nous va ou pas rien qu'en cliquant
tout à fait
sur le miroir,
tout
c'est
à
ça
fait
vous dites
c'est exactement
donc ça c'est, ouais, voilà, ce sont des, c'est ça que vous appelez des expériences fun. Ça n'est pas de mettre de la vidéo avec des dessins animés pour les enfants, pour occuper les enfants pendant que les mamans ou les papas font du shopping.
Alors ça peut aller vers ça également. Vous savez, au niveau les enseignes essaient vraiment d'attirer de plus en plus de personnes dans les magasins. On voit également énormément la montée du click and collect, c'est-à-dire que vous achetez sur internet, mais l'idée c'est de vous faire venir sur le point de vente pour récupérer votre achat. Et quand vous venez récupérer votre achat, l'idée, c'est d'essayer de vous vendre des articles complémentaires. Donc derrière, effectivement, ils vont mettre en place, peut-être, comme vous disiez, ça peut aller effectivement à des dessins animés holographiques maintenant, on part sur une technologie un peu plus moderne, pour intéresser les enfants, tout à fait.
Alors donc, quelles sont les autres tendances donc du magasin en 2019, hormis le fait donc on a compris que la première étape c'était donc bien sûr de bien accueillir son client, de mettre des choses fun comme vous dites, un peu d'amusement dans le magasin pour fidéliser. Quoi d'autre encore?
Je viens de le mentionner avec le click and collect. Donc maintenant les magasins essaient de trouver des endroits stratégiques au niveau de leur emplacement. Pour qu'il soit facile pour quelqu'un qui a acheté sur internet de récupérer son achat. Donc en général, hein, je prends un exemple, si on part sur Paris, si je mets un magasin près de Gare du Nord où je sais qu'il y a énormément de gens qui vont prendre le train ensuite pour rentrer chez eux, je vais pouvoir attirer plus de gens dans ce magasin pour venir récupérer leurs commandes et derrière essayer de les attirer sur d'autres articles. Donc la tendance, je dirais, de plus en plus, c'est l'emplacement de mon point de vente dans les différentes villes, des emplacements stratégiques où il y a, je suis sûr qu'il y aura un passage intéressant au niveau de mes potentiels visiteurs.
D'accord, ça c'est le troisième facteur de performance. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a d'autres. Après, ça dépend du point de vente, du type de point de vente. Comme vous l'avez dit, on travaille avec des enseignes de bricolage ou avec des enseignes de prêt-à-porter ou des enseignes de chaussures. Il y a des éléments tels que le temps passé en magasin. le temps réel passé en magasin commercialement, donc j'enlève dans ce temps réel le temps d'attente au niveau caisse ou si j'attends un produit, mais le temps que un client va prendre dans un magasin pour trouver un article, donc autant dans un magasin de chaussures on sera sur 20 minutes, autant sur d'autres magasins de bricolage on sera sur un temps moyen de 5 minutes. Et donc l'intérêt c'est de connaître le temps moyen de son secteur pour essayer d'arriver à ce niveau-là. Le taux de conversion également, c'est-à-dire sur tous les visiteurs qui sont rentrés dans mon point de vente, combien ont acheté, je dirais que c'est le nerf de la guerre vraiment, puisque au final c'est l'intérêt de la chose. Et là également connaître le taux de conversion de mon secteur, par exemple pour le prêt-à-porter on parle de 15% de taux de conversion, c'est-à-dire que pour 100 personnes qui sont rentrées dans mon magasin, en général, dans le prêt-à-porter, 15 personnes vont acheter dans mon magasin. Donc, en connaissant ces éléments-là, essayer d'atteindre ces objectifs.
D'accord. Donc, dans la mode, en tout cas, 15% de la clientèle qui passe, qui rentre dans le magasin, peut être une consommatrice ou un consommateur.
Tout à fait.
Ça, c'est prouvé, finalement.
C'est prouvé. En fait, par secteur, globalement, pour l'instant, on l'a pas par pays, puisqu'on équipe 20 000 enseignes de par le monde, que ce soit bricolage, etc. On a fait une analyse qu'on publiera prochainement, on fait énormément d'analyses, qu'on publiera prochainement sur les taux de conversion par secteur, mais globalement sur la planète, hein, pour l'instant. Et dans le futur, on le fera par pays et par ville. Pour l'instant, là, on a sorti une étude dernièrement sur le coût par client potentiel. Donc, comme je le disais, savoir où placer mon magasin et derrière un comparatif par rapport au coût de mon bail commercial pour savoir quel est le point de vente le plus potentiellement le plus rentable.
Alors justement, parlons de cette étude européenne que vous avez menée. Vous avez identifié donc par pays plusieurs villes. Par pays,
tout à fait.
Au niveau européen, donc l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Italie, bien sûr la France, l'Espagne et le Portugal. Alors en France, on va focaliser si vous voulez bien sur la France, quel est le marché par habitant, quel est le montant et quelle amélioration peut-on faire, hein?
D'accord. Alors, l'analyse qu'on a faite, en fait, on est parti des chiffres qu'on a. On équipe, comme je l'ai dit, à peu près plus de 10 000 magasins physiques en Europe. Et en fait, dans ces magasins physiques, on est capable de savoir combien de gens passent devant ces établissements. Donc derrière, on est capable de faire une analyse du trafic piéton dans les principales pays en Europe. Et donc, on a fait cette analyse, comme vous l'avez dit, sur la France. Et derrière, nous avons croisé ces données de passage piéton avec le coût d'un bail commercial dans les différentes villes. Donc, ça nous donne, si on peut dire, un coût par client potentiel. Et on s'aperçoit qu'il y a des rues, notamment sur Paris, où si je fais une analyse du trafic piéton, les rues les plus fréquentées, je dirais, de Paris en moyenne, ça sera rue de Rennes et rue du Temple.
Rue de Rennes et rue du Temple à Paris, ce sont les deux rues les plus fréquentées.
Piétonnalement, effectivement, c'est le cas.
Plus que les Champs-Élysées, donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Exactement.
Ou contrairement que le boulevard Saint-Germain et que le Marais.
Parce qu'on fait, en fait, on a fait une moyenne sur l'année, en fait. Et effectivement, avec cette moyenne sur l'année, effectivement, rue de Rennes et rue du Temple, effectivement, il y a beaucoup plus de passages que sur les Francs-Bourgeois, comme vous le faisiez mention,
comme le Marais,
ou les Champs-Élysées, ouais, effectivement.
Voilà. Et donc là, ça donne aussi une indication peut-être aussi du loyer des boutiques finalement.
Tout à fait.
Donc qui peuvent augmenter parce que plus on a de passages, j'imagine que plus.
Tout à fait. Donc on a également cet élément en fait où très souvent nos clients, donc les enseignes, sont intéressés d'avoir ces informations de trafic piéton afin de derrière pouvoir négocier leur bail commercial en fonction du trafic. Ça se passe énormément sur les rues commerciales. mais on équipe également des magasins en centres commerciaux. Et là également, très souvent, le centre commercial va arriver avec des données de trafic qui sont générales au niveau du centre commercial, qui peuvent aller sur 1 million sur une année, 1 million de passages de visiteurs sur une année. Or, il se trouve que certains magasins sont dans ces centres commerciaux, mais sont dans des couloirs, je dirais, isolés, où le nombre de passages est bien moindre. Donc effectivement, il y a cette analyse qui est faite par les enseignes.
Alors, Stéphane Casimir, vous êtes directeur du développement du groupe TC, de TC Group Solutions, un groupe espagnol. Donc, vous avez mis en place tout un système d'analyse. Finalement, c'est de l'intelligence artificielle, on peut dire, que vous utilisez avec des capteurs, que vous utilisez pour faire toutes vos données. Vous dites que les étapes du parcours d'achat des clients, la première chose, c'est l'acquisition et puis ensuite la considération. Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'acquisition, c'est ce visiteur qui est passé devant mon établissement, comment puis-je l'attirer ?
Le capter.
Le capter, c'est ça.
Donc là, c'est dans le rôle donc, de celui qui tient le magasin, comment acquérir un nouveau client, vous voulez dire, par là.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et donc derrière, nos clients font cette analyse, nous leur transmettons les données, et derrière, ils font cette analyse pour pouvoir atteindre des niveaux constants sur la captation, je dirais, de ces visiteurs.
Et ensuite, vous dites la considération. Alors, le client parisien, il est peut-être de toutes les nationalités. On sert comment est considéré le client en France, en particulier par rapport à votre étude européenne ?
Alors effectivement, très bonne question. Au niveau de l'international, comme vous l'avez dit, bon, notre siège est à Barcelone, mais on a TC Group France, on a TC Group Italie, et également on a une présence à New York et en Asie. Donc c'est vrai qu'on fait cette analyse, que ce soit du comportement client, mais aussi de la force commerciale, je dirais, dans ces pays. Le client en France, je dirais, d'une façon générale, également à Paris, est bien considéré, bien reçu. On constate également qu'il y a cette, au niveau des enseignes, ils ont cette volonté, effectivement, de transformer leurs visiteurs en acheteurs. Quand on se promène du côté des galeries Lafayette, on constate qu'énormément des vendeurs dans les magasins de la zone sont des Asiatiques pour pouvoir communiquer avec les clients asiatiques qui visiteraient ces points de vente. Donc au niveau de cette transformation du visiteur en client, la France est un des meilleurs performeurs, je dirais, en Europe.
Donc finalement, contrairement aux idées reçues, on n'est pas si désagréable que ça lorsqu'on veut accueillir nos clients.
dans le milieu du retail...
Dans le milieu du commerce.
Voilà, dans le milieu magasin. Du commerce, non, ça se passe bien.
Ça se passe bien. Et alors, pour si on veut mettre en place, si on est un magasin, pas forcément une grosse enseigne, pas forcément une chaîne, j'allais dire, ou même si on est une chaîne, comment on fait pour mettre en place ce que vous nous proposez aujourd'hui ?
Donc, nous, ce qu'on va mettre en place, c'est des capteurs qu'on va installer dans le magasin. Donc, quand nous arrivons, nous avons notre installateur qui arrive. C'est un capteur, comme je disais, au niveau de la vitrine pour analyser combien de gens passent devant. Un capteur au niveau de l'entrée. On utilise des capteurs avec une précision assez performante de 99% de performance au niveau pour pouvoir analyser le nombre de gens qui rentrent et qui sortent. Derrière, on va installer une control box. En général, dans les bureaux ou dans le faux plafond. Cette control box sera équipée d'un routeur et d'une carte SIM. Donc, les données qu'on va récupérer sur nos capteurs vont directement être transférées vers nos serveurs. Et derrière, nous allons les retranscrire à nos clients sur une plateforme, une web plateforme, ou également on a une app sur lesquelles ils peuvent regarder leur performance en temps réel. C'est-à-dire que toutes les 15 minutes, ils auront une analyse en fait du nombre de gens qui sont passés devant, du nombre qui sont rentrés et du nombre qui ont acheté. Il y a certaines enseignes, alors quand vous allez dans un magasin, gardez ça en considération. Il y a certaines enseignes où les employés de magasins ont des objectifs de vente à la demi-heure. C'est-à-dire que on leur demande de transformer des visiteurs en clients. Ils ont des objectifs. Certaines enseignes que je ne nommerai pas vont pousser les objectifs à 20%. Donc sur 100 personnes qui vont rentrer, en transformer 20. Et c'est des objectifs qui sont fixés à la demi-heure.
À la demi-heure, carrément.
Voilà. Donc quand vous avez quand vous entrez dans un magasin et que vous retrouvez face à des vendeurs un peu qui poussent,
un peu agressifs, on va dire.
Qui poussent à une vente agressive, c'est souvent le cas.
Ça veut dire qu'il faudra qu'on pense que quelqu'un leur a demandé que dans la demi-heure il devait faire un nouveau client.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Merci beaucoup Stéphane Casimir. Alors je rappelle que ce que vous venez de dire, c'est très important. Les étapes, les tendances en fait sur le marché du commerce, hein, c'est un plus grand degré de personnalisation. Donc on va résumer ça comme ça, la nouvelle technologie, donc le big data arrive, les nouvelles technologies également pour avoir plus de fun dans les magasins, voilà comment on peut améliorer sa performance. Et puis bien intégrer ce que vous avez dit entre le commerce physique et les commandes par internet, c'est-à-dire de pouvoir faire du click and collect, comme vous avez dit.
Exactement.
De livrer sur demande. En fait, il faut que les magasins soient beaucoup plus souples. Je vais prendre le cas de si on achète un sommier et un matelas et qu'un jour on y retourne pour avoir que le matelas, bien souvent c'est très difficile parce qu'ils ne veulent pas vendre séparément. Et là, on voit qu'il y a quelques enseignes qui font beaucoup plus de progrès que d'autres parce qu'elles acceptent de vendre à l'unité des choses qui au départ n'étaient pas prévues. En fait, il faut qu'on soit plus agile, c'est ça que vous dites.
Exactement, plus d'agilité. On va également parler dans le secteur de one stock, c'est-à-dire avoir un stock e-commerce unifié avec un stock magasin. C'est-à-dire que si je cherche, comme pour reprendre votre exemple, un matelas spécifique et que je vais sur un point de vente et qu'ils ne l'ont pas disponible à ce moment-là, il faut que ce magasin soit capable de contacter un magasin de la même enseigne ou peut-être en ligne pour vous fournir ce matelas. Et voilà. Effectivement, le nerf de la guerre en ce moment, c'est flexibilité.
Et donc là, il y a beaucoup de progrès encore à faire. Merci beaucoup Stéphane Casimir. Si on veut vous contacter, si on est intéressé, on fait comment ?
Donc on a une page, tcgroupesolutions.com. On a un numéro de téléphone pour le bureau à Paris.
Ça, on le trouvera sur le site internet.
Voilà, on trouve sur le site internet. On a un bureau dans le 10e arrondissement à Paris et on s'occupe des enseignes.
Et l'adresse du site internet, c'est ?
TC Group Solutions.
Tout attaché.
Voilà.
Avec un S à la fin.
.com.
Merci beaucoup, Stéphane Casimir.